Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord de Wagon Livre. Comme chaque mercredi, nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour un nouveau numéro de votre rendez-vous littéraire. Ce soir, il sera question de changement de système agricole, de l'éventualité d'un changement de système agricole, et on va beaucoup parler d'agriculture biologique. Il faut savoir qu'actuellement, le bio représente en France 5% de nos paysans. Notre invité acquiesce. Je vous le présente d'ailleurs, il est l'invité ce soir au moment où nous enregistrons cette émission Wagon Livre 20 juin, il est l'invité des apéros de la librairie L'Autre Monde, 42 Grande Rue à Avallon. Bonsoir Jacques Caplard.
Bonsoir.
Bonsoir à Evelyne Levallois, notre fidèle libraire, car je tiens à le dire, c'est aussi grâce à elle et surtout grâce à Carole et Evelyne Levallois que nous avons la possibilité de partager ces rendez-vous, ces apéros qui sont organisés ici à Avallon. Et on remercie le public venu nombreux, notre député maire d'Avallon, Jean-Yves Collet, qui est là, et Marianne Fouché, Christian Limousin. Merci à vous. Jacques Caplard, nous sommes heureux de vous accueillir à l'occasion de la sortie donc, de votre dernier essai. Ce n'est pas votre premier livre, mais le tout dernier, joli petit format, petit livre didactique, extrêmement clair, très belle leçon, très belle dissertation. Evelyne, tu es d'accord, clair, et qui offre en tout cas un grand nombre d'informations sur le désir que vous et un grand nombre d'agriculteurs, d'écologistes, désirent de changer d'agriculture. Alors, votre livre s'intitule « Changeons d'agriculture », avec le sous-titre « Réussir la transition » et c'est aux éditions Actes Sud. La thèse posée dès le début, Jacques Caplard, c'est que il n'est pas trop tard, mais il faudrait songer à renoncer progressivement à l'agriculture conventionnelle, tendre vers l'agriculture biologique, parce que, contrairement à une idée reçue, l'agriculture bio peut nourrir l'intégralité de la planète.
Exactement.
C'est la thèse.
Exactement.
Et il va falloir convaincre.
Alors je m'y attelle ?
Volontiers.
Alors ça, c'est difficile à expliquer en quelques mots, mais d'abord, la première chose importante, c'est que l'agriculture que j'appelle conventionnelle, c'est-à-dire l'agriculture qui fait convention aujourd'hui, c'est un choix d'agriculture. Ce n'est pas une agriculture naturelle et évidente. Et là, il y a un malentendu très important qu'il faut lever. C'est que beaucoup de gens, et beaucoup de paysans en particulier, croient que l'agriculture biologique, c'est la même chose que le conventionnel, mais avec la chimie en moins. Souvent, on pense que conventionnel égale chimie, biologique égale pas de chimie. C'est faux. Enfin, c'est pas complètement faux. Il est vrai qu'il y a de la chimie dans le conventionnel, il est vrai qu'il n'y en a pas dans la bio. Mais ça ne définit ni le premier, ni le deuxième. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont en jeu. Et croire que changer l'agriculture, c'est simplement enlever la chimie, c'est vraiment se tromper complètement de questions et d'enjeux, de débats, etc. En fait, l'agriculture conventionnelle, qu'on nous présente comme étant la seule agriculture possible, c'est un choix d'agriculture très très particulier et très discutable. C'est d'abord une agriculture qui est basée sur des semences, sur des variétés végétales standardisées, sélectionnées dans des conditions complètement artificielles, autour d'une obsession sur le rendement. Alors c'est très bien de se préoccuper de rendement, mais s'en préoccuper en considérant qu'on puisse l'améliorer sans toucher au reste et en niant toutes les relations qu'il y a entre le rendement et les autres paramètres, notamment tout l'environnement, toutes les techniques humaines, etc., c'est complètement illusoire. Et en fait, on a construit depuis la Seconde Guerre mondiale un système de sélection végétale et animale, d'ailleurs aussi, basé sur une sélection complètement virtuelle, complètement chimérique, artificielle, de variétés standards. Et ce système-là, qui est vraiment un choix arbitraire, il ne fonctionne qu'à la condition qu'ensuite on soit capable de reproduire dans les champs les conditions de la sélection. Et pour reproduire dans les champs les conditions de la sélection, on fait quelque chose qui est absolument nouveau dans l'histoire de l'agriculture, c'est qu'on artificialise les sols, on adapte le milieu aux variétés, alors que jusqu'à maintenant on adaptait les variétés au milieu. Et pour adapter le milieu aux variétés, on met des engrais solubles, des engrais chimiques. Le problème, c'est que quand on fait ça, on se retrouve avec des variétés extrêmement fragiles, d'abord parce qu'elles se retrouvent dans un écosystème pour lequel elles n'ont pas été sélectionnées, puisqu'elles ont évolué en dehors de toute interaction avec les écosystèmes. Donc dès qu'on les remet dans un vrai écosystème, elles sont fragiles. Et donc la fragilité des plantes, c'est une particularité du conventionnel. C'est pas une règle générale de l'agriculture. Les plantes ne sont pas naturellement fragiles. Et pareil pour les animaux, d'ailleurs. Et l'autre problème, c'est quand elles sont nourries avec des engrais solubles, elles sont encore plus fragiles parce qu'elles ont une alimentation en permanence et elles sont donc tout le temps gorgées de sève. Et c'est vraiment un appel aux parasites et aux maladies. On est donc obligé de les protéger par des pesticides pour que ce système puisse fonctionner. Donc ce choix de sélection a conduit à la chimie. Mais il est lié aussi à un autre choix très important qui est la mécanisation à outrance. Après la Seconde Guerre mondiale, on manquait de main-d'œuvre. On avait besoin de reconstruire l'Europe, de construire une économie tertiaire, et on est allé chercher la main-d'œuvre dans l'agriculture. Et comme à la même époque, on croyait qu'on avait une énergie abondante et bon marché, c'était pas compliqué, on remplaçait la main-d'œuvre agricole par des machines qu'on faisait fonctionner avec du pétrole. Et tout ce système-là, il a construit l'agriculture conventionnelle, et qui est basé notamment sur. Enfin, qui a conduit finalement à des champs de plus en plus grands, où on cultive une seule espèce dans un champ, ce qu'on appelle des cultures pures. Dans un champ de blé, il n'y a que du blé. Normalement. Et s'il y a autre chose, l'agriculteur n'est pas content et il met un herbicide pour l'éliminer. Et ça, c'est un choix très très particulier. C'est un choix qui permet la mécanisation, c'est un choix qui est lié à la standardisation de la sélection, qui est lié à la chimie, et qui est aussi lié à 10 000 ans d'histoire particulière de l'agriculture européenne. Mais ça, je ne vais peut-être pas rentrer dans ces détails historiques, ça nous mènerait assez loin. Et donc tout ça, ça a construit l'agriculture conventionnelle. Et passer à une autre agriculture, c'est pas enlever la chimie. Passer à une autre agriculture, c'est se poser la question, est-ce que c'est les cultures pures le plus efficace? Ben non. Quand on regarde les foyers d'invention de l'agriculture en Asie ou en Amérique centrale, on se rend compte que le plus efficace en termes de performance, en termes de rendement, c'est les cultures associées, c'est-à-dire plusieurs plantes par parcelle. Et à ce moment-là, pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait des variétés qui soient adaptées au milieu et évolutives. Ça ne veut pas dire simplement des variétés anciennes, ça veut dire des variétés qui soient capables d'évoluer en même temps que les techniques et le milieu. Et tout ça, ça va avec également une valorisation de la main-d'œuvre. Il faut revaloriser la main-d'œuvre. Dans un monde de chômage de masse et d'énergie chère, c'est complètement absurde de pratiquer une agriculture qui pénalise la main-d'œuvre. Et tous ces changements-là, qui s'accompagnent effectivement de la suppression de la chimie, c'est ce qui fonde l'agriculture biologique. Et c'est vraiment un changement profond d'agriculture. C'est pas simplement supprimer la chimie.
Mais Evelyne ?
Et c'est vraiment ce système de cultures associées qui, vous pensez, permet de nourrir l'humanité?
Oui, alors je ne le pense pas, je le vérifie. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une imagination, ce n'est pas du tout quelque chose qui sort d'une théorie. C'est une pratique, c'est ça qui est très intéressant. On oublie trop souvent de rappeler que l'agriculture biologique, c'est quelque chose de très concret. C'est quelque chose qui est pratiqué par des millions de paysans à travers le monde, par plus de 25 000 paysans en France. Et donc, d'une part, on sait que c'est possible d'y passer, puisqu'il y a des paysans qui étaient conventionnels qui sont passés en bio. Et d'autre part, on sait que ça fonctionne. Et lorsqu'on mesure non pas des constructions intellectuelles d'agronomes dans des parcelles d'essai, mais qu'on va comparer ce qui se passe réellement dans des fermes, dans la durée, c'est-à-dire en regardant pendant 10 ans ce qui se passe dans une ferme, en regardant l'ensemble des cultures de la ferme, c'est-à-dire une agriculture réelle, pas une construction intellectuelle de chercheurs, eh bien on s'aperçoit que dans les milieux non tempérés, c'est-à-dire les trois quarts de la planète en fait, hein, toute la planète sauf l'Europe et l'Amérique du Nord, dans tous les milieux non tempérés, déjà aujourd'hui, l'agriculture biologique a de meilleurs rendements que l'agriculture conventionnelle. Et ça, c'est vérifiable. C'est-à-dire que quand j'entends dire « mais la bio, ça ne peut pas nourrir le monde », je pose toujours la question « mais donnez-moi la référence ». Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Parce que des études qui ont regardé les rendements comparés de la bio et du conventionnel dans les pays non tempérés, il n'y en a pas une seule qui conclut négativement. Pas une seule. Il n'y a même pas de controverse. C'est unanime. Oui, les rendements sont meilleurs en bio. Il n'y a que dans les milieux tempérés où c'est moins évident.
Et vous ajoutez un deuxième paradoxe qui est que l'agriculture conventionnelle ne nourrit pas le monde aujourd'hui.
La preuve, c'est qu'on a toujours 800 millions à 1 milliard d'humains qui souffrent de la faim tous les ans. Et l'exemple du Brésil est extrêmement frappant. Le Brésil, c'est un pays qui devrait être excédentaire sur le plan agricole. C'est un pays très riche sur le plan agricole. Il se trouve qu'il y avait au Brésil, enfin il y a toujours d'ailleurs, des grandes fermes héritées de l'époque coloniale qui employaient énormément de main-d'œuvre. Et qui ont remplacé la main-d'œuvre par des machines et de la chimie. Cette ancienne main-d'œuvre agricole, ces anciens salariés agricoles brésiliens, sont allés dans ce qu'on appelle aujourd'hui les favelas. Les favelas dont il est question à l'occasion de la Coupe du Monde, avec toute la misère et tout le contraste entre la Coupe du Monde et la misère des favelas, eh bien, ces favelas sont à 90% peuplés d'anciens salariés agricoles et de leurs enfants. Donc on a eu une création de chômage, une création de misère, qui est créatrice de la faim. Or, ce chômage agricole au Brésil, il est construit par notre système d'agriculture conventionnelle. Parce que moi, je vis en Bretagne, autour de chez moi, il y a beaucoup d'éleveurs laitiers et qui se disent intensifs. Ils sont très fiers de faire un élevage intensif. Où ils disent, ben voilà, sur 40 hectares, j'ai 80 vaches. 2 vaches par hectare, c'est très intensif. Sauf qu'en réalité, leurs vaches, ils ne peuvent pas les nourrir sur 40 hectares. Ils cultivent du maïs, avec tous les problèmes que ça peut poser d'ailleurs, mais ce maïs ne suffit pas à nourrir 80 vaches. Donc ils sont obligés d'acheter du soja, et ils complètent l'alimentation avec du soja. Mais il ne tombe pas du ciel, ce soja. Il est bien cultivé quelque part. Il est cultivé justement au Brésil, et il faut à peu près 30 hectares au Brésil pour fournir le soja qui va nourrir les fameuses 80 vaches. Donc en réalité, sur ces 80 vaches, elles n'ont pas besoin de 40 hectares, mais de 70. Parce que les 30 hectares du Brésil, il faut bien les compter. Et donc en réalité, 80 vaches sur 70 hectares, c'est un chargement inférieur, un chargement, c'est-à-dire un nombre de vaches par hectare, inférieur à celui qu'on observe dans les élevages herbagers et dans les élevages bio. Donc un élevage bio, en fait, est plus intensif que l'élevage laitier industriel de Bretagne. Et ce soja qui vient du Brésil, eh bien, justement, il vient de ces fameuses fermes héritées d'époque coloniale qui sont aujourd'hui créatrices de la faim au Brésil.
Le sujet est passionnant. On revient avec notre invité Jacques Capla, agronome et ethnologue. Je crois que j'ai oublié de le mentionner au début de l'émission. Pour son dernier ouvrage « Changeons d'agriculture » avec le sous-titre « Réussir la transition ». Et ça me semble vraiment important parce qu'on va vous demander, Jacques Capla, ce soir, de nous expliquer comment vous comptez réussir cette transition et quelque part inviter le monde paysan à une révolution copernicienne, parce que le changement, il est surtout mental. On en reparle dans quelques minutes, toujours dans Wagon Livre sur Radion, et on marque une première pause musicale.
Never get caught. Lovely lady, lady, lady luck.
Un wagon livre ce soir enregistré en public à la librairie L'Autre Monde le 20 juin dernier lors de la venue de Jacques Capla, invité par Evelyne Levallois et Carole Amicel pour son ouvrage « Changeons d'agriculture, réussir la transition ». Merci au public. Jacques Capla, juste avant la pause musicale, vous parliez évidemment de ce qui nous intéresse ce soir, à savoir donc éradiquer la faim dans le monde. Vous avez dit que, et le chiffre est mentionné dans votre livre, 800 millions d'êtres humains souffrent de faim chronique chaque année. Alors je vous lis, moi, il y a quelques jours, Evelyne Levallois me dit on reçoit Jacques Capla, je tombe sur le cahier saumon du Figaro et je découvre dans le Figaro du 16 juin dernier un article « Éradiquer la faim dans le monde, un défi coûteux ». Donc j'ai me semble-t-il bien intégré les préceptes enthousiasmants de Jacques Capla. Je lis l'article du Figaro et déjà, pas une seule fois, je trouve l'adjectif biologique dans l'article du Figaro, hein, qui fait quand même une demi-page. Alors, eux ont trois recettes pour nourrir 9 milliards et demi de terriens. Alors, ils ne reprennent pas du tout une seule de vos idées, Jacques Capla. Il faut absolument envoyer un service de presse au Figaro Économie. Là, il y a un gros souci. Ce que préconise le journaliste du Figaro, qui s'appelle Éric Delachenay, élever des insectes pour les transformer en protéines, dessaler l'eau de mer et développer les OGM. Alors, à mon avis, on est aux antipodes de ce que vous préconisez.
Oui, effectivement. Il se trouve que j'avais envoyé mon livre précédent, « L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité », à Éric Delachenay, qui avait fait un petit article très intéressant où il concluait que tout ça c'était bien gentil, mais qu'il fallait multiplier par 4 les surfaces agricoles si on voulait nourrir le monde en bio. En gros, je ne sais plus le chiffre exact, mais j'avais eu un petit échange de mails avec lui, et manifestement, il refusait absolument de comprendre la logique de ma réflexion. Et bon, voilà, il témoigne assez nettement d'une fermeture d'esprit d'un certain nombre d'économistes ou d'agronomes aujourd'hui. C'est un peu inquiétant, mais heureusement, il y en a d'autres qui sont plus ouverts. Parce que ils ont tellement été nourris de la pensée selon laquelle la bio c'est moins de chimie, donc forcément moins de chimie c'est moins de rendement, donc moins de rendement c'est on nourrira pas le monde, ils comprennent absolument pas la démarche systémique. Et vous parliez tout à l'heure avant la pause de révolution copernicienne, moi je dirais plus précisément révolution systémique, c'est-à-dire que l'agriculture biologique ça a été l'application à l'agriculture européenne de la révolution systémique. C'est-à-dire qu'au cours du XXe siècle, toutes les sciences ont connu une révolution systémique. On est passé d'une vision qu'on appelait réductionniste, où on regardait les choses par le petit bout de la lorgnette, à une vision plus systémique, c'est-à-dire d'étudier les relations entre les éléments et une vision beaucoup plus globale. Et cette révolution systémique en agriculture, c'est vraiment l'invention de l'agriculture biologique dans les années 30-40. Et malheureusement, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas encore fait la révolution systémique. Et typiquement, dire il faut manger des insectes, pourquoi pas? Mais dire manger des insectes, c'est considérer que toutes choses sont égales par ailleurs, et on se contente juste de produire des protéines un peu différemment. Faire des OGM, c'est considérer que, de toute façon, il faut utiliser des semences, des variétés végétales standardisées, cultivées en culture pure, avec chimie. Et dans ce cas-là, effectivement, si on est dans la logique de culture pure, de variétés standardisées, de super mécanisation et de chimie, les OGM, c'est l'aboutissement parfait de cette logique. C'est tout à fait cohérent. Le problème, c'est qu'ils restent complètement enfermés dans un mode de pensée et qu'ils ne posent pas du tout la question de concevoir, de revenir en fait aux bases de l'agronomie. Les bases de l'agronomie, c'est que les cultures pures, ce n'est pas le plus efficace, c'est que les variétés standardisées, c'est forcément des variétés extrêmement fragiles, et que les OGM, dans cette logique-là, c'est une absurdité totale. Les OGM, c'est le contraire du développement, puisque les OGM ne sont pas maîtrisables par les populations locales, ne sont pas reproductibles et ne sont pas adaptables. Donc on est à l'opposé d'une agriculture qui s'adapte au changement climatique et qui valorise les ressources humaines. Donc c'est complètement absurde.
Dans Changeons d'agriculture, vous dites bien quand même que finalement c'est le cas de la plupart des médias français et vraisemblablement européens, j'imagine. Vous expliquez que mettre en avant tout le temps cette agriculture conventionnelle, c'est une propagande.
Tout à fait. C'est une propagande, mais attention, parce que dans l'idée de propagande, il y a en filigrane l'idée de manipulation. Et ce n'est pas seulement une manipulation. C'est-à-dire que quand j'évoquais tout à l'heure comment c'est construit le système conventionnel, je parlais d'une démarche agronomique finalement. Il faut bien comprendre que ceux qui ont mis en place ce système et ceux qui le mettent en avant encore aujourd'hui sont en grande partie des gens de bonne foi, qui sont simplement sur un mode de pensée complètement dépassé. L'ennui, c'est qu'ils ont, ils croient que c'est le seul mode de pensée possible. Et l'exemple typique qui résume bien le malentendu, la raison pour laquelle beaucoup de gens croient que la bio ne peut pas nourrir le monde, c'est l'exemple des comparaisons qui sont faites en Europe ou au Canada sur les rendements. Déjà, je dis bien Canada et pas États-Unis, parce qu'aux États-Unis, la bio et le conventionnel ont déjà les mêmes rendements. Mais au Canada et en Europe, en apparence, la bio a de moins bons rendements que le conventionnel. Mais alors, quand on nous dit ça, déjà, qu'est-ce qu'on regarde ? On ne regarde pas une ferme dans la durée, on se focalise sur une culture spécifique, une année donnée. Et la culture spécifique en question, c'est en général le blé. C'est pas un hasard. Si je parlais de propagande dans un sens de manipulation, je pourrais dire, ils font exprès, le blé c'est la culture qui est la moins adaptée au bio, donc comme ça, ils pénalisent la bio dans la comparaison. Mais c'est pas ça. C'est en toute bonne foi. C'est que le blé, c'est l'archétype du système conventionnel, avec tous les défauts de raisonnement qu'il y a derrière. Le blé, c'est vraiment une culture qui est parfaitement adaptée aux cultures pures et à la chimie. Et en fait, quand on nous fait des calculs de rendement en blé, on prend d'un côté un blé, on prend une variété standard du catalogue, puisqu'il y a tout un système de catalogue en plus qui standardise encore plus et qui donne des critères très très sévères en termes de rendement et d'importance de la chimie dans la sélection. Donc on va prendre une variété standard du catalogue qui a été sélectionné pour la chimie depuis 70 ans, et strictement pour la chimie depuis 70 ans, qu'on va mettre en culture pure, dans un champ où il n'y a plus d'écosystème, qu'on va cultiver avec mécanisation et chimie. Et à côté de ça, pour comparer, ils vont prendre la même variété de blé standard, sélectionné depuis 70 ans strictement pour la chimie, qu'ils vont cultiver en culture pure, dans un champ sans écosystème, sans chimie. Croire que ça, c'est comparer bio et conventionnel, c'est n'avoir rien compris à ce qu'est la bio. Ça, c'est comparer conventionnel standard et conventionnel sans chimie. Mais à partir du moment où vous avez une variété standard qui a été sélectionnée depuis 70 ans pour la chimie, que vous avez une culture pure, donc une seule plante par parcelle, et que vous pratiquez ça avec une méthode mécanisée, sans écosystème, vous n'êtes absolument pas dans un système bio. Donc quand on nous dit ce système-là a de moins bon rendement, bah oui, c'est normal. Enfin franchement... Un système qui construit depuis 70 ans strictement pour la chimie, vous enlevez la chimie, évidemment que les rendements baissent. Il n'y a quand même pas besoin de dépenser des millions d'études comme ça a été fait pour vérifier l'évidence. Ce qu'il faut comparer, c'est des systèmes de culture complexes. Il faut comparer sur une parcelle donnée, sur un hectare donné, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne va pas forcément faire du blé. Nourrir le monde, c'est pas manger du pain matin, midi et soir. Nourrir le monde, c'est avoir de quoi se nourrir. Donc sur un hectare donné, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien sur un hectare donné, si vous faites du maraîchage diversifié en agriculture bio, maraîchage diversifié, c'est-à-dire les gens qui font du maraîchage en vente directe par exemple, donc avec plein d'espèces différentes, eh bien vous avez des rendements en matière sèche qui sont deux fois plus importants qu'un hectare de blé conventionnel avec la chimie. Donc du maraîchage bio peut être beaucoup plus intensif que du blé.
Mais Jacques Caplat, vous, bon, renouveler le système, enfin, changer le système, c'est attaquer le système. Or, vous attaquez finalement l'industrie des pesticides, des fongicides, etc. Il y a Monsanto, il y a en plus des grands groupes qui vendent des gros tracteurs, des moissonneuses batteuses. Vous allez vous mettre des gens à dos.
Ah oui, alors, autant je précise bien que ceux qui ont mis en place ce système n'étaient pas forcément les multinationales, n'étaient pas forcément mal intentionnés. Hein, je pense notamment à Edgar Pisani, qui a largement contribué à mettre en place ce système et qui était quelqu'un de parfaite bonne foi et qui a reconnu d'ailleurs s'être trompé. Donc il y a vraiment eu des gens de bonne foi, il y a encore des gens de bonne foi, et je connais à l'INRA des gens qui sont absolument contre Monsanto, qui sont altermondialistes et communistes, et qui sont pour les OGM, donc c'est des gens qui sont de bonne foi. Mais il y a aussi, bien évidemment, des intérêts économiques, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs économiques multinationaux qui se sont construits sur ce système conventionnel, et qui n'ont évidemment aucun intérêt à ce qui change. Et ce sont effectivement nos adversaires. Et ça, c'est important parce que moi, mes adversaires, ce ne sont pas les paysans. Et c'est essentiel dans mon dernier livre. J'essaie vraiment de partir de l'idée.
Vous les câlinez un peu, on sent que vous les câlinez.
Je les câline
pas. Vous faites une opération, je dirais, séduction.
Vous les présentez comme des victimes, en tout cas.
Voilà, pour moi, ils sont en grande partie des victimes. Alors, certains consentants, je précise, certains consentants. Mais ce ne sont pas mes adversaires. Ce sont des gens que j'ai envie de faire évoluer. Parce que la plupart des bio d'aujourd'hui étaient conventionnels au départ. Ce sont des gens qui ont changé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de les faire évoluer. Et je les câline peut-être un petit peu, enfin, j'ai pas le sentiment d'aller jusque-là, mais en tout cas, mon but, effectivement, n'est pas de les braquer, n'est pas de les stigmatiser. Parce qu'aujourd'hui, leur faire comprendre qu'ils sont en train d'empoisonner le monde, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'insister dans ce sens. On leur a suffisamment dit et ils sont aujourd'hui complètement bloqués, en fait. Leur dire encore plus qu'ils nous empoisonnent, ça ne va pas plus les faire changer, parce que ça va, ils le savent, enfin ils le savent, ou ils ne veulent pas le savoir, mais aujourd'hui, le plus gros problème, c'est d'arriver à leur donner les moyens d'évoluer. Et tout le système agro-industriel les empêche d'évoluer. Et vraiment, pour moi, je fais la différence entre les paysans et le système agro-industriel, parce que les paysans, eux, ils sont écrasés dans un étau.
Vous donnez d'ailleurs des chiffres alarmants, hein. 200 fermes qui disparaissent en France chaque semaine, et un suicide d'agriculteur tous les deux jours.
Voilà.
C'est vraiment...
C'est la profession qui a le plus haut taux de suicide, et c'est vraiment dramatique. Et ça, c'est quand même, c'est le résultat de tout un tas de facteurs, mais beaucoup de paysans, aujourd'hui, sont, d'un point de vue, d'un côté, sont écrasés par la société civile qui leur dit « vous nous empoisonnez », et d'un autre côté, par toute l'agro-industrie qui leur dit « mais vous ne pouvez pas faire autrement si on veut nourrir le monde ». Et c'est ce qu'on appelle une double injonction contradictoire en psychologie. Et c'est invivable, ça peut conduire au suicide, ça peut conduire à la folie, enfin c'est invivable. Donc la seule solution pour survivre à cette situation, c'est d'être dans le déni. Et donc les paysans en arrivent, pour un certain nombre d'entre eux, beaucoup trop, en arrivent à dire « mais non, c'est pas vrai, on ne vous empoisonne pas ». Mais s'ils veulent pas reconnaître qu'ils empoisonnent l'environnement, et par conséquent l'ensemble de la population, parce qu'on n'est pas seulement empoisonné par ce qu'on mange dans notre assiette, on est empoisonné par le fait que les pesticides sont partout aujourd'hui.
Dans le brouillard,
dans les eaux de pluie, etc. La pollution par les particules fines est en grande partie une pollution due à l'agriculture. Et donc, tout ce système-là, il est effectivement extrêmement problématique. Mais les paysans ne peuvent pas l'entendre, parce que l'entendre les renvoie à une situation invivable. Et si on veut qu'ils puissent l'entendre, il faut qu'on arrive à faire tomber l'autre mur. Il faut qu'on arrive à leur faire comprendre qu'ils peuvent faire autrement. À partir du moment où ils comprendront qu'ils peuvent faire autrement, ils seront capables d'entendre que le système dans lequel ils sont actuellement est problématique. Donc, moi, mon souci, c'est que les paysans soient capables d'entendre ce discours. Et donc, mon souci, c'est d'abord de me battre contre l'agro-industrie, effectivement. Je ne me bats pas contre les paysans, je me bats contre une certaine agriculture conventionnelle et tous ses défauts, effectivement, et tous ceux qui aujourd'hui, nous mentent en prétendant que la bio ne peut pas nourrir le monde.
Et vous vous battez aussi un peu contre ce syndicat agricole omniprésent dans les instances de décision. On se demande bien de quel syndicat il peut s'agir.
Vous ne le citez pas, d'ailleurs.
Oui, c'est possible, je peux très bien le citer, puisqu'il s'agit bien sûr de la FNSEA.
Il l'a dit. Jacques Capel l'a dit. Applaudissements, s'il vous plaît.
Mais, en fait, à la rigueur, peu importe quel syndicat, déjà, le simple fait qu'on ait un système de gouvernance de l'agriculture basé sur le principe de l'omniprésence d'un syndicat et de la co-gestion, qui est en fait une gestion par le syndicat majoritaire, c'est un système profondément antidémocratique. Donc, à la limite, que ce soit la FNSEA ou un autre, peu importe, il se trouve que c'est la FNSEA, et il se trouve qu'effectivement, la FNSEA, depuis la fin des années 70, a clairement intégré dans son programme l'objectif productiviste, qui est... C'est très clair, le productivisme, c'est réduire le nombre d'emplois. Le productivisme, c'est plus de production par travailleur. Pas par hectare, par travailleur. Plus de production par travailleur, ça veut dire remplacer les humains par des machines. C'est le programme de la FNSEA depuis les années 60-70. Et donc, il se trouve effectivement que ce syndicat s'est complètement engagé dans une logique de destruction de l'emploi agricole, de destruction des campagnes. Voilà, c'est malheureusement le cas. Maintenant, il y a plein de gens à la FNSEA qui ne partagent pas cet objectif, et qui sont là parce que c'est le syndicat où il faut être. C'est pour ça que c'est toujours très complexe. Mais ça serait un autre syndicat qui serait majoritaire, on aurait aussi sans doute des défauts. Même si la Confédération Paysanne était majoritaire, il y aurait d'autres défauts. Le plus que de taper sur un syndicat, moi, mon souci, c'est de donner les moyens qu'il puisse avoir, d'une part, une pluralité de points de vue dans les instances de décision agricole, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et deuxième niveau, c'est que l'ensemble de la société civile puisse gérer l'agriculture. Il est intolérable aujourd'hui que l'agriculture soit gérée en vase clos par les paysans. Alors, j'entends des paysans quelquefois dire, mais dans aucune entreprise, les clients ne décident à la place du patron ce qu'il doit faire.
Oui, mais les entreprises ne reçoivent pas forcément des subventions.
Exactement.
Contrairement au monde agricole qui reçoit des subventions.
Exactement.
C'est de l'argent public.
Moi, ma réponse est justement de dire, oui, d'accord, moi je ne connais pas une seule entreprise où le conseil d'administration ne donne pas des ordres au directeur. Or, le conseil d'administration de l'agriculture, c'est nous. Parce que qui finance l'agriculture? Nous. La politique agricole commune, les prêts bonifiés, l'ensemble des subventions, l'ensemble de la politique agricole commune, enfin de la politique agricole française y compris, d'ailleurs pas seulement européenne, est financée par la société civile. Donc déjà d'un point de vue purement de logique d'entreprise, c'est la moindre des choses que les citoyens aient leur mot à dire dans la gestion de l'agriculture. C'est pas du tout une intrusion dans le travail d'autrui, c'est un regard légitime de financeur d'une activité économique. Et en plus, ça va plus loin que ça. C'est que de toute façon, cette participation de la société civile à la gestion de l'agriculture devrait être une évidence politique et sociale. Puisque l'agriculture, c'est la relation entre une société et un territoire. Donc la société dans son ensemble est concernée par l'agriculture.
Vous l'écrivez, hein, c'est « Il est pour le moins paradoxal que les agriculteurs soient les premiers bénéficiaires de l'impôt par le biais de subventions européennes et que certains d'entre eux refusent que ceux qu'ils financent participent aux décisions sur l'évolution de leurs pratiques. » On marque une nouvelle pause musicale, toujours à bord du Wagon Livre, avec notre invité Jacques Capla pour « Changeons d'agriculture, réussir la transition ». C'est aux éditions Actes Sud, dans une collection encourageante, c'est « Domaine du possible ». Réjouissons-nous, on se retrouve juste après la pause du
Sia. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love.
20 juin dernier à la librairie L'Autre Monde, 42 Grande Rue, reçue par notre amie Evelyne Levallois, notre fidèle libraire. J'en bafouille, c'est l'émotion. Une émission enregistrée en public, un public attentif. Un public attentif et coopératif, hein. C'est vraiment plaisant. Jacques Capla, changeons d'agriculture, réussir la transition. Alors, vous expliquiez juste avant la pause musicale, que la population active dans le monde agricole a fondu au soleil. Il y avait 6 millions d'agriculteurs dans les années 50. Aujourd'hui, ils sont 80 000.
Non, plus que ça. Ils sont plusieurs centaines de milliers. Ça dépend, 100, comment, 100 ça dépend comment on compte. C'est entre 300 et 600 000 selon les façons de compter. J'avoue que là-dessus, je n'ai pas les chiffres exacts. Il faudrait que je vérifie.
En vous lisant, vous dites qu'il faut rendre le métier de paysan plus attractif.
Vous avez le souci, c'est vrai, de réintroduire l'homme dans l'agriculture.
Ben, déjà, alors, comment rend-on ce métier plus attractif? Aller mettre la main dans la terre, les jeunes gens aujourd'hui, ils veulent des métiers propres, ils veulent être libraires, journalistes.
Animateurs radio.
Ou animateurs radio, ou députés, parce qu'on est en chemise, cravate et discours. Je plaisante, mais rendre le métier d'agriculteur ou de paysan attractif, ça vous semble viable?
Bien sûr. Ben, d'abord, quand on regarde les choses à l'échelle mondiale, le métier d'agriculteur est encore le métier principal de l'humanité, et il y a beaucoup de pays où rendre le métier d'agriculteur attractif, ça permet tout simplement de laisser la possibilité aux gens de continuer une vie qui est la leur et qui leur plaît. En Europe, c'est plus compliqué, parce qu'en Europe, le métier d'agriculteur a été vraiment dévalorisé, enfin, dévalorisé à la fois par une certaine image de dureté du travail, etc., mais aussi dévalorisé, et ça les paysans l'oublient un peu trop vite, par l'image justement de la pollution, de la destruction de l'environnement, etc. Et très souvent les paysans disent « oui, mais si le métier n'est pas attractif, c'est parce qu'on nous donne trop de contraintes ». Je ne suis pas d'accord. Si le métier de paysan n'est pas attractif, c'est en grande partie aussi parce que les paysans ont saboté l'image de l'agriculture. Et donc il faut à la fois rendre à l'agriculture une dimension valorisante pour la personne qui y travaille, c'est-à-dire faire un métier qui soit quand même un métier d'altruisme. Enfin, on va pas donner envie aux gens de devenir agriculteurs en leur disant vous allez venir empoisonner le monde, vous allez venir exploiter des animaux, etc. Donc déjà, il faut permettre aux gens qui seraient intéressés par l'agriculture de leur dire oui, il est possible de vivre de l'agriculture en respectant l'environnement, en respectant les animaux, etc. Donc proposer une autre agriculture que l'agriculture conventionnelle qui domine aujourd'hui. Et puis, il faut arriver à ce que les paysans puissent bénéficier finalement de l'évolution globale du travail qu'a eu dans notre société depuis 30 ou 40 ans, ou plus d'ailleurs. J'ai toujours été choqué, quand on a parlé de la réduction du temps de travail dans les années 90, d'entendre parler, non pas de réduction du temps de travail d'ailleurs, mais de 35 heures. Les 35 heures, c'est un point de vue de salarié. Je suis pour les 35 heures, même pour les 32 heures, mais je suis d'abord pour la réduction du temps de travail. Que les salariés, qu'on comptabilise en nombre d'heures pour les salariés, ok, mais parler uniquement de 35 ou de 32 heures, c'est oublier que tous les métiers, bah, comme le libraire, je pense, ou enfin, tous les métiers du commerce, de l'artisanat et donc de l'agriculture, ne sont pas sur ces horaires-là. Donc il faut arriver, et ça personne ne l'a fait ces dernières années, à imaginer des organisations du travail et des réformes fiscales qui permettent à ce qu'un agriculteur puisse réduire son temps de travail. Il est intolérable aujourd'hui que des agriculteurs puissent ne pas prendre de week-end, ne pas prendre de vacances.
Et pourtant, ils ont quand même ils sont mécanisés à outrance, ils sont même assistés par des drones, des ordinateurs. Du temps libre, ils ont dû en avoir. Les agriculteurs, alors, ils ont vu, à mon avis,
tout
leur
dépend,
temps libre. La traite ne se fait plus à la main. Enfin,
tout dépend d'abord de quel système on parle. On pourrait dire que pour un certain nombre d'agriculteurs au sens strict du mot, c'est-à-dire les personnes qui font des grandes cultures, donc céréales, protéagineux, ça va. Ils ont pas loin de 6 mois de vacances dans l'année, et ils en profitent bien, parce qu'en général, ils ont à la fois une manne financière, une rente, une véritable rente, par les aides européennes, plus aujourd'hui des cours des céréales qui sont élevés par la spéculation mondiale. Donc ils vivent très bien, ceux-là. D'ailleurs, ils passent pas en bio, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à passer en bio, puisqu'ils vivent très bien en conventionnel. Mais par contre, beaucoup de paysans, notamment les éleveurs et les petits agriculteurs, eux, vivent beaucoup moins bien. Et le problème, c'est que, comme on a eu un alignement des cours intérieurs sur les cours mondiaux, qui sont des cours à perte, comme on a eu depuis 70 ans finalement, une logique de dire on va réduire le travail et remplacer la main-d'œuvre par des machines, toute la logique de rentabilité de l'agriculture est basée sur l'agrandissement. Pour être rentable, il faut plus de vaches, plus d'hectares, etc. Et si on a plus de vaches et plus d'hectares, eh bien on se retrouve finalement pris dans une course-poursuite où on n'a pas plus de temps libre à l'arrivée. Et le paradoxe, c'est que les paysans, aujourd'hui, continuent à travailler comme des fous, enfin, une partie d'entre eux, une bonne partie d'entre eux, et ça, c'est pas tenable. Et il faut arriver à faire en sorte que le travail soit beaucoup moins taxé. Alors quand je dis que le travail soit moins taxé, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de protection sociale. Juste, il faut savoir rééquilibrer la pression fiscale. La pression fiscale a été construite depuis la Seconde Guerre mondiale pour pénaliser le travail et favoriser la mécanisation, parce qu'on manquait de main-d'œuvre et on avait une énergie prétendument bon marché et abondante. Ce système fiscal, il est complètement absurde dans le monde d'aujourd'hui, où on a un chômage de masse et une énergie chère et rare. Donc il faut absolument modifier cette pression fiscale. Donc il y a un certain nombre de mesures qu'on peut prendre qui peuvent permettre de revaloriser le travail agricole, aussi bien d'agriculteurs que de salariés agricoles, de façon à ce que les agriculteurs puissent avoir un temps de travail à peu près correct, et puis donc une valorisation de leur métier. Et ça, c'est tout un travail social assez large. Ça ne demande pas seulement des mesures, ça demande aussi une implication de la société civile dans une valorisation générale de l'agriculture.
Evelyne ?
Oui, vous parlez aussi, pour revaloriser le métier d'agriculteur, de recherche, notamment, moi ça m'a assez surpris, de recherche technologique assez développée pour rendre le travail moins pénible, notamment en bio, par exemple, plutôt que de cueillir accroupi, il y a des plateaux où on peut s'allonger pour cueillir des choses, voilà. Et finalement, vous présentez le bio comme une agriculture, on va dire, savante, et pas du tout un retour à l'agriculture de grand-papa, enfin, archaïque. Vraiment, voilà, on n'est pas du tout dans cette image-là.
Oui, ah ben, ça c'est essentiel, c'est-à-dire que la bio, comme je disais tout à l'heure, c'est la révolution systémique appliquée à l'agriculture. C'est-à-dire qu'en agriculture européenne, depuis l'invention de l'agriculture au croissant fertile, à peu près la Syrie actuelle, enfin, qui est un des trois lieux d'invention des trois lieux principaux d'invention de l'agriculture dans le monde, l'agriculture du croissant fertile qu'a gagné l'Europe est basée sur les cultures pures, sur une vision réductionniste de l'agriculture. Et dans cette vision-là de l'agriculture, toute la mécanisation a été construite, d'une part, pour faciliter l'agrandissement, la rationalisation sous forme de culture pure standardisée, avec tous les défauts auxquels on arrive en bout de course. Ça a fonctionné pendant un moment, mais arrivé au stade où on en est aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et puis, cette mécanisation, elle a également servi essentiellement, et ça, il ne faut pas l'oublier, à libérer des bras. C'est-à-dire que depuis l'invention de l'agriculture, la mécanisation, ce n'était pas fait pour améliorer les conditions de travail des paysans. D'abord, les paysans, pendant très longtemps, c'était des esclaves, ou c'était des serfs, c'était des péquenauds. Je peux vous dire que les scientifiques, les rois, les nobles, les administrateurs de l'Ancien Régime, ou les administrateurs de la Révolution, etc., ça ne les souciait pas tellement les conditions de travail des paysans. Ce qui les souciait, c'était améliorer la productivité pour libérer des bras, pour pouvoir aller faire la guerre, pour pouvoir construire des pyramides, construire des cathédrales, faire la révolution industrielle, etc. Et l'agriculture biologique s'inscrit forcément dans une logique qui n'est pas de libérer des bras, mais qui est d'améliorer son condition de travail. Donc quand on veut faire de la mécanisation en bio, parce que bien entendu, c'est positif d'en faire, c'est pas fait pour diminuer l'emploi, c'est fait pour améliorer les conditions de travail. Et effectivement, il y a encore des recherches, il y a encore des choses à faire pour améliorer les conditions de travail. Et par ailleurs, sur le côté innovateur de l'agriculture bio, indépendamment de cette question-là, la bio, c'est finalement d'arriver à transformer l'agriculture européenne vers une agriculture plus performante, basée sur les cultures associées et tout un tas de techniques qui valorisent l'environnement au lieu de le considérer comme un adversaire. Et ça, en Europe, c'est complètement moderne, complètement nouveau. En Asie, en Amérique latine, ça avait été pratiqué autrefois. En Europe, pratiquement jamais. Donc ça, c'est très innovateur. Et pour donner un exemple, un des fondateurs de la bio, qui s'appelle Sir Albert Howard, qui est un Anglais qui a travaillé beaucoup en Inde, a inventé, dans les années 30, le compost. Parce que le compost n'existait pas en Europe. En Europe, on faisait du fumier vieux. Le compost, qui est une fermentation aérobie, contrôlée, avec des taux de carbone, d'azote, bien contrôlés, etc. Ça, c'est Howard qui l'a inventé. Et il l'a inventé comment ? En faisant la synthèse entre des savoirs traditionnels qu'il a trouvés en Inde, qui n'étaient pas encore aussi aboutis, le compost traditionnel en Inde, c'était pas un compost aussi abouti que ce qu'on sait faire aujourd'hui, et puis ces savoirs de scientifiques, de botanistes et d'agronomes européens, et la synthèse de ces deux savoirs a permis d'inventer le compost, qui est maintenant utilisé par toute l'agriculture. Donc la bio, c'est vraiment une agriculture d'innovation.
On continue de parler d'agriculture biologique avec notre invité Jacques Caplat, donc auteur de « Changeons d'agriculture, réussir la transition ». C'est aux éditions Actes Sud dans la collection Domaine du possible. Alors, après ces explications sur le fumier, eh bien, on va un peu de douceur, un peu de musique et on se retrouve dans une poignée de minutes, toujours en public, dans une émission enregistrée à la librairie L'Autre Monde à Avallon le 20 juin dernier. Devant les micros de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Evelyne, si tu as une question dangereuse, glissante, une question piège peut-être, car nous avons été particulièrement délicats avec lui ce soir. Peut-être pourrions-nous le mettre un peu en difficulté à la fin de l'entretien.
Ah, on est parti alors. On parlait là tout à l'heure de l'influence de l'Inde, notamment pour les découvertes autour de l'agriculture biologique. Vous expliquez quand même dans votre livre que en fait l'Occident est en retard. Sur la révolution biologique, on est à la traîne. Est-ce que c'est un changement aussi de centre de pensée peut-être ou...
En partie, oui, je pense. La pensée systémique est une pensée qui est développée depuis très très longtemps en Asie. La médecine chinoise, la philosophie chinoise, l'ensemble de la science chinoise et donc de l'agronomie chinoise était systémique depuis très très longtemps. Et on sait bien aujourd'hui que c'est une grande qualité, enfin qu'une grande partie des découvertes scientifiques de entre l'an 0 et l'an 1500 viennent de la Chine. C'était beaucoup plus avancé que l'Europe. Et aujourd'hui, l'Europe se met, heureusement, à découvrir ce mode de pensée et à améliorer sa science. Donc oui, je crois qu'aujourd'hui, l'Europe est un peu à la traîne, en matière d'agriculture en tout cas, l'Europe est à la traîne. Mais c'est à la fois pour des raisons scientifiques, de mode de pensée, donc on a construit une agriculture qui s'est enfermée dans une impasse, donc c'est compliqué d'en sortir, et c'est aussi pour des raisons historiques. Donc il y a des dimensions sociales et des dimensions scientifiques là-dedans. Mais aujourd'hui, en effet, l'enjeu, c'est de comprendre comment fonctionnent les associations de cultures, c'est-à-dire comment on peut mettre dans une parcelle des cultures différentes qui vont optimiser la photosynthèse, c'est-à-dire mieux couvrir le sol pour mieux capter les rayons du soleil et donc produire davantage de biomasse, puisque c'est ça le but de l'agriculture, hein. C'est de transférer de l'énergie solaire que les humains sont incapables d'assimiler en une énergie assimilable par l'homme. C'est ça l'alimentation, hein. C'est bien pour ça qu'on mesure les rations alimentaires en énergie, en kilojoules. Et donc, si vous avez une culture qui couvre des cultures différentes qui couvrent bien le sol, on valorise mieux les rayons du soleil, et donc on produit plus. C'est une des raisons pour lesquelles les cultures associées ont de meilleurs rendements que les cultures pures. Mais ça, en Europe, on connaît très mal les types de cultures associées qu'on peut pratiquer. Donc ça, il faut l'inventer. Et bien pour l'inventer, on va s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays du monde, parce qu'effectivement, dans les pays non tempérés, les savoirs sont beaucoup plus avancés là-dessus. Pour les arbres, c'est encore pire. Alors ça va être compliqué, parce que les arbres qu'on a en Europe ne sont pas les mêmes que ceux qu'il y a en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou en Afrique. Et donc, inventer des systèmes qui impliquent les arbres, ça prend forcément du temps, parce qu'un arbre, une expérimentation sur un arbre, ça ne tient pas dans un programme de recherche de 3 ans, quoi. Donc effectivement, je pense qu'on est en retard aujourd'hui sur un certain nombre de points.
Oui. Alors, en revanche, ce qui peut-être ne tient pas dans un programme de 3 ans, c'est les prix. Parce que cette transition vers le bio, est-ce que ça nous permettrait d'avoir une alimentation moins chère dans le caddie? Parce que vous écrivez de manière péremptoire, page 109, « Les prix actuels des produits alimentaires sont trompeurs et malhonnêtes. »
Alors, c'est une question qui a 2 dimensions. Là, par rapport à cette phrase, c'est le fait que les prix alimentaires sont aujourd'hui basés sur un prix artificiel qui n'est pas le coût de production. Les cours internationaux des denrées alimentaires, depuis l'Antiquité, sont des prix à perte. Parce qu'une société normalement constituée organise son agriculture pour avoir des surplus. D'une part parce qu'il faut stocker un peu de réserve. D'autre part parce qu'on ne sait jamais ce que va donner l'année en cours et on prévoit un peu plus pour qu'au pire on ait de quoi se nourrir. Donc on a à la fois des surplus annuels dus à ce qu'on a mis en culture et des surplus stockés d'une année sur l'autre par sécurité. Les stocks, ils s'abîment au bout d'un certain temps. Donc il faut les renouveler, donc il faut les vendre. Les surplus de l'année, on n'a rien à en faire, donc il faut les vendre. Et comme c'est des surplus, on les vend à perte. On n'a pas besoin de les vendre au coût de production. Si on ne les vend pas, c'est pas dramatique. Donc les cours internationaux ont toujours été des cours à perte. Depuis le milieu des années 90, depuis que l'agriculture est entrée dans ce qui s'appelait à l'époque le GATT et maintenant l'OMC, on a imposé à tous les pays d'appliquer dans les cours intérieurs des pays le cours mondial. Donc aujourd'hui, les prix alimentaires sont à perte. Alors, c'est pas forcément choquant. Du moment qu'on a un choix sociétal pour compenser cette dimension-là en finançant l'agriculture, et donc éventuellement en orientant l'agriculture, ce qui devrait être le rôle d'une politique agricole, c'est pas forcément choquant. Le problème quand même, c'est que les pays qui n'ont pas les moyens de mener une politique agricole et de subventionner ses paysans sont extrêmement défavorisés. C'est le problème des pays du Sud par rapport à l'Europe et aux États-Unis. Mais même si on a des subventions, comment est-ce qu'on les calcule ? L'autre problème, parce que ça c'est le problème de base, on a fait le choix d'avoir une alimentation pas chère. Pourquoi pas ? Je veux dire, on peut en rester là, on peut décider de garder une alimentation moins chère que les coûts de production. Mais dans ce cas-là, il faut rééquilibrer à l'intérieur de l'agriculture pour pas qu'il y ait distorsion de concurrence entre les choix agricoles. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une énorme distorsion de concurrence en défaveur de la bio, puisque tous les coûts sanitaires et environnementaux de l'agriculture conventionnelle ne sont pas inclus dans le prix du produit. Alors les coûts sanitaires, ils sont difficiles à évaluer, mais je pense que vous pouvez assez facilement comprendre que la multiplication des cancers, des maladies neurologiques, des maladies auto-immunes, des allergies, etc., dont on sait maintenant, et c'est plus contestable, qu'ils sont en grande partie dus à l'agriculture, enfin à la chimie agricole, tous ces coûts-là, évidemment, ils pèsent très très lourd sur la société. Et ça apparaît pas dans le prix des produits conventionnels. Mais il y a déjà quelque chose qui est mesurable dès aujourd'hui, et ça on peut le mesurer. Il y a 2 ans et demi, le Commissariat général au développement durable a fait une étude sur les coûts de la dépollution de l'eau due aux pollutions agricoles. Parce que très souvent, les paysans disaient, il n'y a pas que nous qui polluons. Il y a aussi les routes, les chemins de fer, les jardiniers, etc. Ce qui n'est pas faux. C'est de moins en moins vrai pour les routes et les chemins de fer. C'est encore vrai pour les jardiniers, mais ça devrait s'améliorer. Et cette étude a donc bien ciblé sur les pollutions agricoles. Et bien, elle conclut que dans les zones d'alimentation de captage, qui couvrent quand même une grande partie des surfaces agricoles, les zones d'alimentation de captage, le coût de dépollution dû aux pollutions agricoles pour l'eau revient entre 800 et 2400 euros par hectare. Je peux vous dire que si on donnait 800 euros par hectare aux paysans pour qu'ils produisent en bio, les produits bio coûteraient moins cher que chez Lidl. Donc en réalité, dès aujourd'hui, si on prend en compte uniquement la pollution de l'eau, la bio coûte moins cher que le conventionnel. Si la bio est plus chère pour le consommateur, c'est simplement que la différence, elle est payée par l'impôt, par le redevance sur l'eau, etc.
En tout cas, vous avez cité une marque de supermarché, Radion va payer une amende de 800 euros. Bon, je plaisante, bien sûr. Evelyne, une toute dernière question pour conclure.
Je trouve que vous avez dans un petit ouvrage de quoi 150 pages, une ambition folle, vous voulez aussi résoudre les problèmes géopolitiques mondiaux.
D'une certaine manière, oui, puisque finalement, comme je le dis à la fin du livre, l'agriculture, c'est un des fondements de la civilisation. Là, je prends un peu ma casquette d'ethnologue. L'agriculture, c'est la rencontre entre une société et un territoire. Il y a autant d'agriculture possible que de territoire possible, mais bien plus que ça. Il y a autant d'agriculture que de combinaisons possibles entre les sociétés et les territoires. Donc déjà, c'est d'ailleurs une remarque importante, c'est qu'il n'y a pas une agriculture bio, il y en a une infinité. Contrairement au conventionnel, qui est un modèle centralisé et où tout le monde doit faire pareil, la bio, c'est quelque chose d'évolutif, d'adaptable. Il n'y a pas un modèle en bio, il y a juste une démarche. Mais changer de démarche agricole, c'est changer tous les rapports au territoire, c'est changer une partie des relations sociales finalement, ça fonde un rapport au monde, et ça effectivement, je reconnais, c'est assez ambitieux. Mais peut-être juste dire un mot, parce qu'on n'a pas trop abordé la dimension transition qui est essentielle dans mon livre, je voudrais juste conclure là-dessus quand même, c'est que tout ce que je dis là, c'est quelque chose qui peut se changer par petits pas. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de montrer que ces changements-là, ça veut dire des étapes progressives. Et j'ai travaillé à l'accompagnement d'agriculteurs vers la bio, donc je sais ce que c'est que de faire passer un agriculteur du conventionnel vers la bio. C'est pas des idées en l'air, c'est de la pratique que j'ai pratiquée moi-même et que des milliers de paysans ont pratiquée. Et donc, on sait comment faire pour faire évoluer une ferme conventionnelle vers la bio. Ça prend du temps, il y a un certain nombre de moyens à mettre en œuvre. Et ce qui me paraît important, c'est de montrer comment les pouvoirs publics d'une part, mais aussi les citoyens par leurs gestes quotidiens et pas seulement par la consommation, par leur choix d'épargne, par leur choix de jardiner, même quand on habite en ville, des choses comme ça, peuvent faire changer cette agriculture et engager cette transition. Donc c'est vrai que je suis ambitieux sur le plan civilisationnel, si on veut, mais j'espère être aussi très pragmatique et très modeste dans les moyens que je propose.
Merci Jacques Capla de nous avoir donné quelques pistes. Bien évidemment, les curieuses et les curieux iront vous lire. Alors on rappellera l'agriculture biologique pour nourrir l'humanité, démonstration de Jacques Capla, donc c'est toujours chez Actes Sud, et le petit dernier, très pratique, à glisser dans la valise éventuellement, à lire sur la plage, « Changeons d'agriculture, réussir la transition ». C'est Jacques Capla aux éditions Actes Sud. Enfin, on a bien compris que le chemin sera quand même long.
Oui, il faut être réaliste.
Soyons réalistes, demandons l'impossible.
Donc il faut commencer vite.
Dépêchons-nous quand même. Merci au public de la librairie L'Autre Monde.